Et sur Fréquence Mistral, dans la matinale, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Provençal, qui sera en conférence ce jeudi 6 juin à partir de 18h aux archives départementales. Une conférence qui a pour thème du ghetto au maquis. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Alors, vous avez fait le déplacement d'Aix-en-Provence pour venir nous voir, parler à nos auditeurs, pour présenter cette conférence. D'abord, présentez-vous, comme ça nous allons faire connaissance ensemble.
Eh bien, oui, je m'appelle Mireille Provençal. Donc, j'ai travaillé toute ma vie à Aix-en-Provence, à l'université. J'étais historienne géographe. Et je me suis intéressée, vers la fin de ma vie professionnelle, à l'histoire de ma famille, qui est une famille qui a connu son heure de gloire dans la région de Digne, puisque mon grand-père a été chef d'un réseau de résistance. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est de porter sur lui un regard différent du regard officiel et de chercher les raisons pour lesquelles il s'était engagé et pour lesquelles il est mort, puisqu'il a été capturé et fusillé en 1944. Donc voilà, je suis passée d'une activité professionnelle qui était essentiellement tournée vers les sciences de l'environnement, puisque c'était mon travail, vers une activité, on va dire, d'écriture plus historique à partir des archives familiales dont j'avais hérité.
Et toutes ces archives, vous les aviez, c'est toute votre famille qui vous les a données ou c'est vous qui êtes allé à la source les prendre ?
Au départ, ce sont essentiellement des archives familiales. Et d'ailleurs, c'est assez exceptionnel. J'ai pu travailler avec un certain nombre d'historiens pour rédiger le livre que j'ai écrit, qui ont estimé que la quantité d'archives dont je disposais n'était pas ordinaire. J'ai des archives qui m'ont été transmises depuis le début du XIXe siècle, c'est-à-dire depuis la fin de la Révolution française, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup d'archives qui sont à la fois des archives très officielles, comme des actes de notaire ou des actes de naissance ou de décès, des actes d'état civil, mais aussi des lettres, des journaux intimes, des photographies depuis très longtemps. Et cette masse d'archives, c'est assez étonnant. Elle était dans des caisses, dans la famille de mon père. Et je suis obligée de penser qu'elles ont été transmises de génération en génération, de père en fils et de fils en père, jusqu'à moi. Et c'est ça qui m'a décidé à en faire quelque chose, parce que je me suis dit que c'était bête de laisser perdre tout ça. Il y avait une vraie histoire par derrière. Il y avait une sorte de, je vais dire, de désir qui a été transmis, dont je me suis sentie un peu la récipiendaire. Il fallait en faire quelque chose. Alors, comme je suis historienne de formation, j'ai essayé d'aller plus loin, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai discuté avec des historiens, et ça a fini par faire le livre qui a été édité en décembre dernier.
Et de cette caisse par rapport à votre père, c'est lui qui vous en avait parlé ou vous l'avez découvert après ?
Mon père était très attentif à l'histoire de sa famille. La masse documentaire vraiment importante dont j'ai hérité, je pense que j'en sous-estimais l'importance avant de la découvrir. Mais mon père m'avait fortement sensibilisé à cette histoire familiale. Et je pense que il faut que je le dise tout de suite, je suis originaire d'une famille juive. Je pense que chez les juifs, ce sentiment d'appartenir à une famille, sentiment d'autant plus fort qu'ils ont été menacés et menacés de destruction, c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique. Donc mon père m'a beaucoup parlé de son propre père. Il a beaucoup souffert de sa mort, évidemment, puisqu'il partageait les mêmes lieux de résistance et mon grand-père est mort tragiquement. Mais il m'a aussi parlé de ses ancêtres plus lointains dont il portait le nom, avec parfois un regard un peu ironique pour eux. Ironie dont j'ai un peu hérité d'ailleurs. Mais c'était quand même très important de savoir ce qu'il y avait avant. Après, j'ai découvert les caisses et évidemment, pour vous donner simplement une idée, dans une des caisses, il y avait 500 lettres manuscrites échangé entre mes grands-parents entre 1930 et 1940. Donc c'était vraiment une découverte essentielle.
Vous êtes d'origine lorraine ?
Oui. Donc je peux remonter jusqu'au ghetto de Metz. Le ghetto, c'était les quartiers dans lesquels les Juifs étaient reclus, enfermés. À Metz, donc, où je suis bien sûr allée, j'ai retrouvé dans l'immense cimetière juif, qui est un lieu patrimonial assez extraordinaire. Hein. C'est un cimetière qui a des tombes qui datent de l'Ancien Régime, du XVIIIe siècle. J'ai retrouvé les tombes de mes ancêtres. Et je peux donc retracer une histoire qui démarre très tôt, qui est d'ailleurs un peu exceptionnelle, parce que mon très lointain ancêtre, qui s'appelait Isaïe, en bon juif qu'il était, était médecin dans le ghetto de Metz. Et on lui accorde, alors j'en discute dans mon livre évidemment, parce que tout se discute en histoire, hein, on lui accorde d'avoir guéri Louis XV. Louis XV qui est tombé malade lors d'un passage à Metz, qu'on a cru perdu, qui a reçu l'extrême-onction, qui s'est confessé, ce qui n'a pas arrangé ses affaires d'ailleurs, parce qu'il a confessé des choses inconfessables. Et on a fait appel à des médecins non-juifs qui n'ont rien pu faire, puis des médecins juifs, et puis Louis XV a guéri, alors, tout seul, à cause de ça. Ça se discute.
Légende ou pas ?
Ben, écoutez, quand on fait de l'histoire, on récupère toutes les sources possibles et on les discute. Moi, je dirais, dans mon livre, j'aboutis à cette idée que c'est peut-être plutôt un mythe ou une légende qui a fait très plaisir à la descendance familiale et qui l'a donc transmis. Après, ça se discute.
Et de Lorraine à Provence, vous avez suivi un petit peu le cheminement ?
Oui, je l'ai suivi de très près parce que donc, ma famille se disperse à partir de Metz. Il y en a une partie qui part à Verdun où ils fondent un journal sous la Restauration puis l'Empire. Donc ce sont des imprimeurs, des typographes, des intellectuels déjà. Une autre partie va habiter à Sarrebourg, qui est pas très loin de Metz non plus. Une autre partie à Nancy, donc ça se disperse dans la Lorraine. Je peux raconter des choses extrêmement précises sur ce qui se passe, en particulier à Sarrebourg, où habite le grand-père du grand-père de mon grand-père. Il est le responsable de la communauté juive. Et c'est vrai que dans ma famille, la judéité occupe une place considérable. Ce sont des croyants, ce sont des pratiquants. Ce sont des gens qui, en même temps, cherchent à s'intégrer dans la société française, à être de bons Français, de bons patriotes. Ils vont faire tous leurs efforts pour obtenir, les uns après les autres, la Légion d'honneur, dans des circonstances que je peux raconter et qui sont intéressante. Et avant de raconter ces histoires de Légion d'honneur, je peux simplement finir sur cette question lorraine en disant que, eh bien, il y a la guerre franco-allemande en 1870-71 et qu'en 71, toute ma famille fait le choix de la France. C'est un geste républicain pour eux. Ils sont minoritaires. Et ça va leur coûter cher sur le plan financier, bien sûr. Ce que je raconte, il y a des faillites bancaires. Et ça va surtout leur coûter cher sur le plan psychologique. Parce que c'est un exode, un exil. Je crois que pour les Juifs, le mot exode, ça a du sens. Et il y a une sorte de dépression qui va traîner pendant quelques générations dans la famille. Et il faut bien le dire aussi, mon grand-père, Jean Liebmann, a choisi comme nom de guerre pour fonder son maquis dans la vallée du Laverque le pseudonyme de Lorrain, ce qui est quand même le maquis Lorrain, hein, c'est comme ça qu'on le nomme, ce qui est quand même un rappel sensible de ses origines et de cette terre perdue puis reconquise. Et qui dénote aussi, je crois, quelque chose qui parcourt ma famille durant toute son histoire. C'est un sentiment patriotique très fort.
Oui, il faut resituer que l'Alsace et la Lorraine, suite à cette guerre, avaient changé de camp.
Voilà. Ah oui, l'Alsace et la Lorraine sont devenues allemandes jusqu'en 14, puis françaises. Et puis, pendant la guerre de 39-40, de nouveau, les Allemands ont considéré que l'Alsace et la partie nord de la Lorraine leur appartenaient. Donc il y a, c'est une terre disputée dans laquelle ma famille se situe avec des hauts et des bas, et en tout cas un sentiment d'appartenance toujours important.
Donc et pour ce que vous vouliez parler de
des légions d'honneur.
Des légions d'honneur, oui.
Oui, alors ça c'est rigolo parce que je crois qu'il y a... Il faudrait que je les compte précisément, mais je crois qu'il y a 9 ou 10 ou 11 légions d'honneur accumulées dans la famille depuis, depuis 1815, on va dire, la première date de là, puisque donc, un de mes ancêtres, qui s'appelle curieusement Lippmann, prénom et nom de famille, obtient une légion d'honneur pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que en 1815, quand la France est envahie par les armées alliées, les Russes, les Autrichiens, en Lorraine, on se défend. Il y a d'ailleurs déjà des résistants. Bon, je ne vais pas dire des maquisards parce que c'est un mot qui n'existe pas encore. Et les Bavarois envahisseurs veulent faire un exemple parce qu'on leur tire dans le dos, bien sûr. Hein. Les résistants sont des gens qui se battent. Et donc, ils menacent de mettre le feu à la ville de Baccara, dans laquelle cet ancêtre vit. Et lui, il fait une démarche assez courageuse. Il se rend auprès de l'état-major bavarois et il négocie qu'on épargne la ville de Baccara. Et pour cette raison, il va obtenir la Légion d'honneur. Voilà, donc c'est, on va dire, un premier acte qui est posé. Parce que moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est d'où ça sort le fait que ma famille... En 40, et précisément en 43, enfin, ils résistent à Nice depuis 41, hein, ils ont fondé un réseau de résistance. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent de résister? D'où ça vient? Tous les Juifs n'ont pas fait le même choix. Il y a, je pense à la famille Jacob, par exemple, qui est la famille de Simone Veil, n'a pas fait le choix de résister, et ils se sont fait prendre et déporter, ce qui n'est pas une critique, évidemment, malheureusement pour eux. Donc, ce choix de résister, ce qui m'a intéressé dans mon livre, c'est d'en chercher les sources. Et effectivement, ce premier Légion d'honneur, qui sera suivi par d'autres, montre bien qu'il y a un fil continu qui se tire jusqu'à mon grand-père. Et ça, ça m'intéressait beaucoup.
Et cette Légion d'honneur était fraîchement faite par Napoléon Ier, qui était en train de perdre, justement, en 1815, qu'il allait partir en exil.
Mais... Oui. Curieusement, elle n'est pas accordée par Napoléon Ier. Elle est accordée un peu plus tard par Louis-Philippe. Bon, enfin, après, c'est une longue histoire à raconter sur comment on fait pour obtenir la Légion d'honneur.
On vous retrouve dans quelques minutes, Mireille. On va écouter Maurice Bénin, un morceau qui s'appelle « Frêle esquif ».
L'esquif au cœur de nacre, sous la tornade il tient bon, il pourfend le néant, narguant la bise du doute, frêle esquif dans la mer infinie, il voyage de corps en corps, il n'a chaque fois qu'une vie. Atteindre un autre port, il nous arrache de nos tentations d'immobilité, il nous sépare de nous-mêmes, en nous poussant au large, il nous conduit vers l'unité, qui n'a que faire du sédentaire, de nos combines cérébrales, de nos spéculations mentales, et nous souffrons de ce souffle divin qui nous transperce. Oh, toutes ces failles, tous ces volets qui claquent dans nos bicoques de chair, jusqu'à la mort, nous ne serons que des égaux malades de ne pouvoir tout décider. Jusqu'à la mort, je ne serai qu'un musicien jouant studieusement sa partition, sans jamais voir l'œuvre achevée. Frêle esquif au cœur de nacre, depuis longtemps il résiste aux tentations séculaires, aux négociants portuaires, frais l'esquif dans la mer infinie qui m'emporte malgré moi vers l'immensité du vide, poser l'acte du grand large. Pour cette vie, il m'a confié paroles et musique, et la voix pour les chanter. Tout comme Orphée, je plonge dans les ténèbres de la nuit pour en extraire l'harmonique, le chant d'amour fondamental, cette pluie de poussière d'étoiles, et ne souffrons de ce souffle divin qui nous transperce. Autour de ces failles, tous ces volets qui claquent dans nos bicoques de chair, jusqu'à la mort, nous ne serons que des égaux malades de pouvoir tout décider. Jusqu'à la mort, je ne serai qu'un musicien jouant studieusement sa partition sans jamais voir l'œuvre achevée.
Alors Mireille Provençal, vous appelez Provençal, ça ne s'écrit pas comme on pourrait l'entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vient cette origine ?
D'où vient cette origine ? Je ne le sais pas vraiment, mais quand même, d'abord, je précise que c'est le nom de mon mari. Moi-même, je m'appelais Lippmann dans mon nom de naissance. C'est une famille qui est enracinée dans, à la limite entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, sur Laragne, Gap, Sisteron. Et certains pensent que porter un nom de famille qui se rattache à un lieu géographique, comme ce qui s'appelle Carcassonne ou Lunel ou Bédaride, peut avoir une origine juive. Alors, certains membres de la famille sont très accrochés à cette hypothèse. D'autres, parce que la famille est devenue depuis chrétienne, depuis des générations, la refuse. Alors moi, je laisse à la famille de mon mari le plaisir de faire ses recherches.
Alors vous allez présenter votre livre Du ghetto au maquis. Vous êtes un petit peu présenté. Il y a beaucoup de personnalités juives ou juives dans notre histoire française, notamment à Fred Dreyfus. Par rapport à votre livre, vous se situerez où ?
Alors, l'affaire Dreyfus, l'affaire du capitaine Dreyfus, hein, qui a été injustement condamné et dégradé et envoyé à l'île du Diable dans le courant des années 1890, est une affaire que ma famille traverse, évidemment. Elle la traverse d'abord parce que, on le sait peut-être pas, mais l'affaire Dreyfus est précédée par une montée considérable de l'antisémitisme dans les années 1880. Des auteurs comme Drummond ou comme Léon Daudet écrivent à ce moment-là des pamphlets dont on n'a pas idée aujourd'hui. Je crois que même les nazis pendant les années 40 n'ont pas écrit sur les juifs ce que ces gens-là ont écrit. J'en parle assez longuement dans mon livre parce que je crois que c'est important de signaler cette apparition d'un antisémitisme particulier qui est un antisémitisme racial et non plus religieux comme l'antijudaïsme des siècles antérieurs. Et c'est en quelque sorte une répétition générale prémonitoire de ce qui va arriver pendant le XXe siècle. Un auteur que beaucoup de gens ont entendu parler, qui est Hannah Arendt, a longuement parlé justement de cette première scène initiale que constitue l'affaire Dreyfus et la montée de l'antisémitisme antérieur. Donc moi, je me suis demandé comment ma famille, qui était une famille juive plus ou moins pratiquante, plus ou moins déjà dégagée du judaïsme, avait pu vivre cet antisémitisme qui n'a rien à voir avec la religion, qui a à voir avec la race. Et j'ai trouvé des choses. Par exemple, un de mes ancêtres avait son nom de famille qui avait été changé dans le courant du 19e siècle à la suite d'une erreur d'état civil. Il s'appelait Abraham, c'est un nom qui ne trompe pas, et l'erreur d'état civil l'avait nommé Félix. Eh bien, au moment de l'affaire Dreyfus, il demande à récupérer son nom d'Abraham par solidarité avec le capitaine Dreyfus. C'est un geste important, qui va lui coûter très cher ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs. Et puis, il y a une autre anecdote qui est plus qu'une anecdote, que je développe assez longuement aussi dans mon livre, qui est celle d'un de mes ancêtres scientifiques. Ça n'a pas un rapport direct avec l'affaire Dreyfus, mais ça se situe au même moment et c'est un rapport direct avec l'antisémitisme. C'est un grand scientifique de renommée mondiale. Il est invité en Russie pour des forages pétroliers avec les frères Nobel. Ça dit quelque chose de sa carrure. Et au moment de partir, l'ambassade de Russie lui demande de remplir un visa particulier, spécial pour les Juifs. Il refuse de le faire dans une très belle lettre et il refuse de partir. Donc voilà, il y a cette tradition que j'ai évoquée tout à l'heure déjà de résister, de s'affirmer, de ne pas avoir honte de ce qu'on est, qui est un fil conducteur de l'histoire de ma famille, qui je pense explique les choix qu'elle a fait ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Et cet antisémitisme, vous parliez de 1880, des années 1890, dans les années 30 aussi en France, c'était sacrément...
Oui.
Ah, sacrément, c'est pas sacré, mais c'était quand même très difficile pour vous, quoi.
Oui, effectivement, ma famille traverse les années 30 les yeux ouverts. Elle sait parfaitement ce qui se passe. Elle sait aussi très bien ce qui se passe en Allemagne. Ce sont des gens qui sont informés. Ma famille est une famille qui est, très engagée à gauche depuis la guerre de 14, depuis l'affaire Dreyfus, parce que l'affaire Dreyfus, c'est un tournant. Hein. À ce moment-là, si on est du côté du capitaine Dreyfus, on est à gauche. Si on est anti-Dreyfusard, on est à droite. C'est vraiment une coupure dans la vie intellectuelle et politique française. Donc ma famille, elle est évidemment Dreyfusarde, puisqu'elle est juive. Enfin bon, c'est pas tous les juifs, mais quand même majoritairement. Et elle s'engage à gauche. Mon grand-père va militer pour le Front populaire. Il va accorder... Alors, mon grand-père est huissier à Nice. Il a une étude, comme on dit. Et il a donc des employés à qui il va accorder les congés payés avant 1936. Il va donc s'engager et militer à gauche. Et... comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit au micro, mais je dispose d'un nombre considérable de lettres échangées entre mes grands-parents qui montrent bien comment ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe en Allemagne. Par exemple, leur fils aîné va passer 2 mois dans la ville de Prague en 1933 pour perfectionner son allemand. Ce qui reste de la Lorraine germanophone, c'est d'apprendre l'allemand dans la famille. Et il doit rentrer en France, mais en Allemagne, il s'est passé des choses en 1933. Et donc, on lui déconseille de traverser l'Allemagne parce qu'on sait ce qui se passe déjà envers les Juifs. Il va prendre un autre chemin. Et puis bon, beaucoup de lettres montrent par exemple qu'en 1938, lors de l'affaire de Munich, l'annexion de la Tchécoslovaquie, hein, le lâchage de la Tchécoslovaquie par les puissances occidentales, ma famille est anti-munichoise fervente et elle échange des lettres effrayées par ce qui se passe.
Oui, vous disiez là, l'Europe a lâché, enfin une partie de l'Europe a lâché pour le nazisme. Ils avaient beaucoup fermé les yeux en disant bon, il ne se passera rien. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé par la suite. Et pour arriver donc du ghetto au maquis, bon, en Provence, il y a une forte résistance. Beaucoup de maquisards, il y a eu des maquis, enfin, ils ont été quand même trahis aussi, des maquisards par des gens qui se faisaient passer pour des maquisards et qui revenaient avec l'uniforme nazi. Mmh. Et comment s'est passée la transition pour, même si dans votre famille vous êtes très résistante dans l'âme, pour continuer à vaincre et à combattre l'ennemi qui était en France, que ce soit les Allemands ou les Italiens, parce qu'il y avait des Italiens aussi en Provence.
Alors on peut commencer un petit peu plus haut, puisque en 1939, mon grand-père et ses deux fils aînés, mon grand-père s'engage et ses deux fils aînés sont appelés par l'armée. Ils vont donc combattre l'invasion allemande. Et il y a encore deux légions d'honneur qui sont acquises à ce moment-là. On n'est plus à ça près. Bon, c'est la défaite. Un de mes oncles est fait prisonnier et il y restera jusqu'en 1945. Mon grand-père est fait prisonnier lui aussi. Et il va pouvoir rentrer en France au début de 1941. À ce moment-là, à Nice, il s'engage dans la résistance urbaine. Il est donc dans un réseau de résistance avec un pseudonyme dont je parle dans mon livre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il va jouer un rôle important d'ailleurs, comme il parle parfaitement l'allemand et l'italien, comme interprète dans la question de la reddition de Menton à la France après l'annexion de Menton par l'Italie. Et puis, en fait, les Italiens ne menacent pas réellement les Juifs à Nice. C'est l'arrivée des Allemands en septembre 1943 qui va faire la bascule. Et à ce moment-là, la tête de mon grand-père est mise à prix, à la fois explicitement comme juif et comme résistant. Donc il fait le choix de partir. Il avait déjà échappé de justesse à une première rafle. Et donc en septembre 1943, il part dans les montagnes avec sa famille.
Oui, septembre 1943, c'est quand Mussolini perd, quoi, hein, que le commencement de la libération commence par la Corse. Après, ils sont venus en Provence un petit peu plus tard. Et les Italiens étaient un petit peu plus conciliants avec vous ?
Oui, c'est bien connu. Hein. Les Italiens n'ont pas mené une politique antisémite de mise en danger et de déportation des Juifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Nice, ce qui s'est passé a été terrible. Parce que pendant deux années, on va dire 1942 et jusqu'en septembre 1943, de nombreux Juifs de France et d'Europe ont trouvé refuge à Nice, à Saint-Martin-Vésubie, par exemple, c'est très connu. Et ensuite, Nice va constituer une nasse dans laquelle l'arrivée des Allemands va permettre d'arrêter un nombre considérable de Juifs qui vont être déportés. J'ai évoqué tout à l'heure la famille Jacob, mais bien d'autres aussi ont été pris et raflés et déportés. L'avantage de ma famille, c'est qu'ils avaient les yeux ouverts là-dessus. Donc ils étaient déjà résistants, donc ils ont fait le choix de partir. Et je dirais qu'ils ont pu le faire d'autant plus facilement que c'était des montagnards. Ma famille est traversée par une passion de la montagne qui date déjà des années 20, depuis longtemps. Ce sont des alpinistes, ce sont des gens qui ont, je dirais, importé le ski de randonnée dans les Alpes du Sud. Et pour eux, il a été naturel, en quelque sorte, de trouver refuge dans ces montagnes qu'ils connaissaient déjà extrêmement bien. C'était des alpins du Sud depuis longtemps.
Et est-ce qu'avec les autres maquisards, ils avaient contact ?
Bien sûr. Le maquis du Laverque, donc, puisque c'est un maquis qui a été fondé et qui est resté et qui s'est battu dans la vallée du Laverque, qui est un affluent de l'Ubaye, il faisait partie du réseau de l'ORA, l'Organisation de la Résistance Armée. Mon grand-père était un des responsables de ce réseau. Et donc en contact avec l'état-major qui était à Barcelonnette. C'est lui qui a mené les négociations avec les maquisards italiens pour conclure les accords qu'on appelle les accords de Sareto, qui sont un accord important sur la fourniture d'armes de part et d'autre des Alpes entre Italiens et Français. Donc oui, bien sûr, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient tout à fait intégrés.
Est-ce qu'ils étaient au courant des conditions des Juifs qu'il y avait en Provence, notamment Thorat, Montfort-Calquier, ce côté-là?
Je ne sais pas. Je pense que oui, évidemment. J'ai Bon, j'ai pas beaucoup. Si vous voulez, les documents que je peux avoir, c'est ces lettres dont je vous ai parlé, qui sont très intéressantes, très abondantes et très profondes. Mais c'est des lettres échangées entre mes grands-parents. Mais à partir du moment où ils ont gagné le maquis, j'ai plus de lettres. Voilà, j'ai ce que mon père m'a dit. Et mon père m'a dit qu'effectivement, ils étaient au courant. Ça, je le crois volontiers. C'était des gens qui s'intéressaient à ce qui se passait. Puis, ils n'étaient pas isolés. Au maquis sont arrivés beaucoup de résistants qui venaient de Manosque, de Fort Calquier. Il y avait entre 60 et 70 personnes au Laverque au printemps 44 qui venaient d'un peu partout des Alpes du Sud. Donc, les choses se savaient.
Est-ce que vous, de vos propres souvenirs, vous vous rappelez de tout ça?
Moi, je suis née en 46.
Ah oui.
Donc, non, je n'ai pas de souvenir de tout ça. Mais je sais des choses, entre autres, parce que j'ai travaillé avec des historiens. Je pense à M. Panicacci, qui est un historien de la Résistance à Nice, et Jean-Marie Guillon, qui était un de mes collègues et un très grand historien de la Résistance dans les Alpes du Sud. Et donc, M. Guillon m'a montré comment les maquis avaient pu être trahis par des personnes infiltrées. C'est le cas. Mon grand-père, la réunion dans laquelle il a été capturé, qui était une réunion des chefs de maquis qui s'est tenue aux eaux chaudes dans la haute vallée de la Bléone, a été dénoncée par une personne infiltrée qui appartenait à ce qu'on appelle les bataillons de Brandebourg.
C'est ça.
Voilà. On sait qui c'est. On a le rapport de gendarmerie. Et voilà, c'est ainsi.
Ah oui, ils arrivent en tant que maquisards. Et ils allaient dénoncer les maquisards et revenaient sur, comme je disais tout à l'heure, ce que disait Jean-Christophe Labadie ou Laure Franek pour leur émission Histoire d'archives sur notre antenne de fréquence Mistral à Digne. Ils revenaient avec l'uniforme allemand, quoi.
C'est ça. Et cette personne, elle a demandé ensuite à la gendarmerie de Digne d'être exfiltrée parce qu'elle craignait des représailles, ce qu'elle a été. Donc, mais enfin bon, il y a un nom sur le rapport de gendarmerie. Est-ce que c'est son vrai nom? Est-ce que c'est un pseudonyme? Et puis, je pense que cette personne a disparu depuis longtemps.
Heureusement.
Oui, enfin, malheureusement pour mon grand-père, oui. Puisque, voilà, il a été donc... alors, il y a différents récits, mais apparemment, je pense que le récit le plus fidèle, c'est celui qu'a fait son fils aîné, Jacques, qui est mon oncle, donc, qui a pris sa suite dans le commandement du maquis, qui dit que cette réunion donc, des chefs de maquis a été interrompue par l'arrivée des Allemands. Tout le monde s'est enfui. Et mon grand-père a voulu revenir le lendemain matin parce que dans la grange où ils avaient eu cette réunion, était resté un poste de radio, de l'argent et surtout des noms, des textes avec des noms. Et c'est donc en voulant revenir qu'il a été pris. Il a sans doute été un peu abîmé, on va dire, dans un interrogatoire sommaire, et puis fusillé rapidement.
Bien.
Voilà.
Vous serez en conférence donc ce jeudi 6 aux archives départementales à partir de 18h.
Oui.
Pour présenter votre livre et surtout pour continuer à parler de belles choses, malheureusement, qui sont tragiques pour votre passé, votre histoire.
Oui, bien sûr. Et je serai contente de pouvoir présenter ce livre et surtout d'en débattre, de débattre des idées que j'avance avec les personnes qui seraient intéressées.
Rendez-vous ce jeudi 6 aux archives départementales, 18h. Merci Mireille Provençal.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.